tout de suite, elle s'ennuyait aux histoires inventées. Mais surtout, son continuel étonnement, sa continuelle indignation, était de voir que, dans les romans d'amour, on ne se préoccupait jamais de l'enfant. Il n'y était pas même prévu. Et quand, par hasard, il tombait au milieu des aventures du cœur, c'était une catastrophe, une stupeur et un embarras considérable. Jamais les amants, lorsqu'ils s'abandonnaient aux bras l'un de l'autre, ne semblaient se douter qu'ils faisaient œuvre de vie et qu'un enfant allait naître. Cependant, ses études d'histoire naturelle lui avaient montré que le fruit était le souci unique de la nature. Lui seul importait. Lui seul devenait le but. Toutes les précautions se trouvaient prises pour que la semence ne fût point perdue et que la mère enfantât. Et l'homme, au contraire, en civilisant, en épurant l'amour, en avait écarté jusqu'à la pensée du fruit. Le sexe des héros, dans les romans distingués, n'était plus qu'une machine à passion. Ils s'adoraient, se prenaient, se lâchaient, enduraient mille morts, s'embrassaient, s'assassinaient, déchaînaient une tempête de maux sociaux, le tout pour le plaisir, en dehors des lois naturelles, sans même paraître se souvenir qu'en faisant l'amour, on faisait des enfants. C'était malpropre et imbécile. Elle s'égaya. Elle répéta dans son cou, avec une jolie audace d'amoureuse, un peu confuse. « Il viendra, puisque nous faisons tout ce qu'il faut pour ça. Pourquoi ne veux-tu pas qu'il vienne ?» Il ne répondit pas tout de suite. Elle le sentait entre ses bras, pris de froid, envahi par le regret et le doute. Puis il murmura tristement. « Non, non, il est trop tard. Songe donc, chérie, à mon âge. « Mais tu es jeune !» s'écria-t-elle de nouveau avec un emportement de passion, en le réchauffant, en le couvrant de baisers. Ensuite, cela les fit rire, et ils s'endormirent dans cet embrassement, lui sur le dos, la serrant de son bras gauche, elle le tenant à pleine étreinte, de tous ses membres allongés et souples, la tête posée sur sa poitrine, ses cheveux blonds répandus, mêlés à sa barbe blanche. La tsunamite sommeillait, la joue sur le cœur de son roi. Et, au milieu du silence, dans la grande chambre toute noire, si tendre à leurs amours, il n'y eut plus que la douceur de leur respiration. Chapitre 9. Par la ville et par les campagnes environnantes, le docteur Pascal continuait donc ses visites de médecin. Et, presque toujours, il avait au bras Clotilde, qui entrait avec lui chez les pauvres gens. Mais, comme il le lui avait avoué très bas, une nuit, ce n'était guère désormais que des tournées de soulagement et de consolation. Déjà, autrefois, s'il avait fini par ne plus exercer qu'avec répugnance, cela venait de ce qu'il sentait tout le vide de la thérapeutique. L'empirisme le désolait. Du moment que la médecine n'était pas une science expérimentale, mais un art, il demeurait inquiet devant l'infinie complication de la maladie et du remède, selon le malade. Les médications changeaient avec les hypothèses. Que de gens avaient dû tuer jadis les méthodes aujourd'hui abandonnées. Le flair du médecin devenait tout. Le guérisseur n'était plus qu'un devin heureusement doué, marchant lui-même à tâtons, enlevant les cures au petit bonheur de son génie. Et cela expliquait pourquoi, après une douzaine d'années d'exercice, il avait à peu près abandonné sa clientèle pour se jeter dans l'étude pure. Puis, lorsque ses grands travaux sur l'hérédité l'avaient ramené un instant à l'espoir d'intervenir, de guérir par ses piqûres hypodermiques, il s'était de nouveau passionné, jusqu'au jour où sa foi en la vie, qui le poussait à en aider l'action, en réparant les forces vitales, s'était élargi encore, lui avait donné la certitude supérieure que la vie se suffisait, était l'unique faiseuse de santé et de force. Et il ne continuait ses visites, avec son sourire tranquille, qu'auprès des malades qui le réclamaient à grands cris et qui se trouvaient miraculeusement soulagés, même lorsqu'il les piquait avec de l'eau claire. Clotilde, parfois, maintenant, se permettait d'en plaisanter. Elle restait, au fond, la fervente du mystère. Et elle disait gaiement que, s'il faisait ainsi des miracles, c'est qu'il en avait en lui-même le pouvoir. Un vrai bon Dieu. Mais, alors, il s'égayait à lui retourner la vertu efficace de leur visite commune, racontant qu'il ne guérissait plus personne quand elle était absente, que c'était elle qui apportait le souffle de l'au-delà, la force inconnue et nécessaire. Ainsi, les gens riches, les bourgeois, où elle ne se permettait pas d'entrer, continuaient à geindre, sans aucun soulagement possible. Et cette dispute tendre les amusait. Ils partaient chaque fois comme pour des découvertes nouvelles. Ils avaient de bons regards d'intelligence chez les malades. Ah, cette gueuse de souffrance qui les révoltait, qu'ils allaient seuls combattre encore, comme ils étaient heureux lorsqu'ils la croyaient vaincue. Ils se sentaient récompensés divinement quand ils voyaient les sueurs froides se sécher, les bouches hurlantes s'apaiser, les faces mortes reprendre vie. C'était leur amour, décidément, qu'ils promenaient et qui calmait ce petit coin d'humanité souffrante. « Mourir n'est rien, c'est dans l'ordre », disait souvent Pascal. « Mais souffrir, pourquoi ? C'est abominable et stupide !» Une après-midi, le docteur alla, avec la jeune fille, voir un malade au petit village de Sainte-Marthe. Et, comme il prenait le chemin de fer, pour ménager bonhomme, ils firent à la gare une rencontre. Le train qu'ils attendaient venait des Tulettes. Sainte-Marthe était la première station, dans le sens opposé, vers Marseille. Et, le train arrivé, ils se précipitaient. Ils ouvraient une portière lorsqu'ils virent descendre la vieille Madame Rougon du compartiment, qu'ils croyaient vide. Elle ne leur parlait plus. Elle descendit d'un saut léger, malgré son âge, puis s'en alla, l'air raide et très digne.